C'est l'été. Et ça me donne le sourire. Ça veut dire aussi l'été qu'il y a des grandes vacances qui arrivent. Et donc, pour la majorité d'entre vous, vous allez partir. Vous allez faire des projets, vous allez prévoir. C'est plus le Covid, donc on peut s'en aller, on peut partir à l'aventure. Mais l'aventure, est-ce que ça veut dire nécessairement partir loin? Est-ce que ça veut dire de prendre l'avion? Ou est-ce qu'on ne peut pas être dans une aventure en restant en France, en partant en train? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des micro-aventures aussi au quotidien, dans les journées, dans les week-ends, dans les semaines? Et c'est exactement le sujet que je vais traiter avec mon invité du jour, qui est Ferdinand Martinet, qui est le cofondateur d'un site web et d'une entreprise qui s'appelle Chiloé. Ils viennent de lancer la Bible de la micro-aventure. Et ça, je crois que ça permet d'égayer son quotidien, ça permet de reprendre le contrôle sur son quotidien. Et ça, c'est un truc génial. Il va prendre des tonnes d'exemples, vous allez voir dans l'épisode. Ça donne tellement envie. En tout cas, moi, ça m'a donné tellement envie de prendre mon vélo, d'aller découvrir, d'aller dans le sens du vent. Je vous laisse écouter l'épisode qui va vous mettre en pleine forme, j'en suis certain. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Ferdinand.
Salut, Greg.
Ça va bien aujourd'hui?
Ça va très, très bien.
Bon. On va parler de vacances, et ça tombe bien puisque ça va être très bientôt, les vacances, il va falloir les organiser. Il y a sans doute une grosse partie des gens qui sont déjà organisés leurs vacances, moi j'organise assez mal de manière générale, donc clairement mes vacances ne sont pas organisées. Et on va parler de vacances qui sont locales. Est-ce que c'est pour toi un phénomène qui devient de plus en plus à la mode de rester proche, de rester en France?
Bonne question. Moi, j'avoue, j'ai l'impression que le local is the new cool. Tu sais, moi, je suis un peu de la génération. On a regardé les expéditions Cousteau, celles de Ushuaïa Nature, les albums de Tintin. Et en fait, finalement, les aventures à l'autre bout du monde étaient vraiment le truc génial, quoi, le Graal. Et même si je repense à la génération de mes parents, t'avais un guide du routard et t'allais au Népal ou je sais pas dans quel pays. C'était vraiment le Graal. T'étais un voyageur, etc. accompli. Et en fait, finalement, c'est tout l'inverse qui se passe aujourd'hui. Et parce qu'on a, à mon avis, un peu délaissé ce qu'on a à côté de chez soi et qu'on se rend compte aussi qu'en allant parfois très loin, eh ben, on va vivre un peu la même chose. Et en fait, tu vois que ce qu'on vit tous les jours, il y a moins de dépaysement. On a l'impression de faire un peu les mêmes voyages que tout le monde. On a l'impression de cocher des cases. On a l'impression d'être, voilà, un peu toujours de répéter les mêmes histoires. Et il y a un truc incroyable avec le local. C'est qu'en fait, c'est juste si tu changes ton regard sur ce que tu as autour de toi, ça redevient cool. Et puis surtout, après, je pense que c'est aussi... on a un pays qui est magnifique et tu vois, on parle d'écologie du paysage quand on parle de la France, au sens où il y a une diversité du paysage. Et ça marche en France parce que tu as des montagnes, la mer, des campagnes, etc. Et donc, en fait, tu as plein de choses que tu peux faire autour de n'importe quelle ville de France. Et je pense qu'on a une chance de dingue. Et voilà. Et je finis peut-être en... Tu vois, ça me donne l'impression aussi que c'est un peu dans l'air du temps comme... on a transformé nos manières de s'alimenter, tu vois, avec une alimentation locale et de saison, ce qui finalement est du bon sens et plein de simplicité. Hein, c'est ce qui a toujours été fait des centaines d'années avant nous. Et en fait, on se rend compte que finalement, on fait la même chose en voyageant. On peut aller. Parce qu'en fait, quand tu vas voyager, il y a plein de raisons qui te donnent envie d'aller voyager. Mais ça peut être de déconnecter, ça peut être de te reposer, ça peut être de découvrir des nouvelles personnes, etc. Bon, alors c'est sûr, si tu veux découvrir des nouvelles cultures, une nouvelle langue, etc., il faut aller un peu plus loin qu'à côté de chez toi. Mais pour se déconnecter, passer du temps dans la nature, découvrir une nouvelle région, son terroir, ses habitants, tu vois, des histoires de gens que tu croises sur le chemin, que ce soit un fromager, que ce soit quelqu'un qui a monté un petit hôtel, un petit refuge, etc., en fait, il y a plein de trucs à faire à côté de chez soi.
D'ailleurs, tu parlais des voyages à l'étranger. Moi, une chose que j'ai remarqué, parce que malgré tout, j'ai beaucoup voyagé, c'est qu'il y a une uniformisation de tout. C'est-à-dire qu'en fait, je pense à cause d'Instagram, à cause des réseaux sociaux de manière générale, ça peut être Pinterest, Instagram, Airbnb, on voit une uniformisation des appartements. On voit une uniformisation des restaurants. Et en particulier, quand tu voyages dans des grandes villes et tu n'as plus... où tu vas être naturellement, peut-être, attiré par des choses que tu connais déjà. C'est comme ça qu'on voit, tu vois, typiquement, les Starbucks qui se sont répandus, alors qu'en fait, Starbucks, c'est quand même... à l'origine, c'est une copie des cafés italiens et français aux États-Unis, avec l'idée américaine. Et maintenant, les Français vont dedans, alors qu'en fait, à la base, c'était la copie des cafés français. Mais en fait, il y a vraiment cette logique d'uniformisation. Je sais pas, est-ce que tu as observé ça aussi? Est-ce que tu retrouves pas d'ailleurs dans les régions, dans les villages, que ce soit en France ou ailleurs, évidemment? Est-ce qu'il y a pas ça aussi? C'est-à-dire qu'en fait, on voyage, mais finalement, on reste au même endroit.
Ouais, je pense que je te rejoins pas mal là-dessus. Alors, l'exemple de Starbucks est vraiment très vrai. Et moi, je me souviens avant le Covid, les images, on voyait des images de touristes à Santorin en Grèce ou sur le toit de l'Everest qui faisaient la queue. Et vraiment, je crois que là, on était pour moi arrivé un peu à la saturation. Même si j'ai l'impression qu'hélas, c'est un peu en train de repartir comme ça. Mais dans tous les cas, tu te dis, mais en fait, pourquoi aller aussi loin ou en tout cas aller là-bas si c'est pour faire exactement la même chose que les autres? Et en fait, c'est une bonne question. Moi, je pense que de toute façon, hélas, on est toujours un peu attiré par ce qui nous rassure, ce qui est un peu comme ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, c'est vrai que parfois, tu as l'impression que même à la montagne, les gens se tournent vers des petits restos ou des petits hôtels un peu, tu vois, un peu bien décorés, un peu bien faits, un peu quali et tout. J'ai presque envie de parler un peu de, ouais, un peu de boboisation du truc et tout, et j'en fais sans doute partie, sans doute que parfois j'aime aller découvrir de nouveaux concepts dans des endroits, et en fait naturellement je fais la part belle à des concepts qui viennent peut-être de grandes villes, etc. Mais ouais.
Non, mais c'est enfin, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, c'est ça, et la seconde aussi, c'est que avant, quelque part, enfin, pas l'idée, c'était pas de dire c'était mieux avant, mais il y avait aussi le voyage. Le voyage faisait partie des vacances, tandis qu'aujourd'hui, le voyage, on essaie de le réduire au maximum. Donc, on veut pas prendre le temps, finalement.
Alors, je te remercie, parce que je pense que tout le sujet est à mon avis là, et quand on... Bah, tous ceux qui vont penser à leurs prochaines vacances ou leur prochain week-end et qui sont en train d'essayer de penser à... En tout cas, de l'organiser. En fait, je crois que c'est ça, le véritable... Le voyage, en fait, c'est le fait d'aller quelque part, et ça n'est pas la destination. Tu vois, j'aime beaucoup une citation d'Yvon Chouinard, qui est le fondateur de Patagonia, et qui dit « C'est bien plus important la manière dont tu grimpes une montagne que d'arriver au sommet. » Au sens où, finalement, ce qui fait l'essence même du voyage, de demain, je pense, c'est la manière dont tu vas t'y rendre. Et je prends un autre exemple que je cite. Il y a de jeunes gens hyper sympas qui ont créé SailCop, qui est une coopérative, tu vois, de voyage en bateau à voile. Maxime de Rostelan et Arthur Levaillant.
Ah ouais, qui est venu sur le podcast de Maxime, d'ailleurs.
Ah yes, et j'aime beaucoup Maxime. Et en fait, dans leur démarche, ce que je trouve intéressant, c'est de dire, bah oui, pour aller en Corse, tu peux prendre le ferry, mais tu peux aussi y aller en prenant un voilier depuis Toulon, etc. Alors, ça va être plus long, mais en fait, quand tu vas revenir de, je sais pas, de ta semaine ou tes deux semaines de vacances en Corse, un des éléments les plus marquants sera le fait que tu as traversé la Méditerranée sur un voilier. Donc, c'est finalement moins... Ce qui compte, c'est moins d'aller mettre son cul quelque part dans une destination prisée, mais c'est la manière d'y aller. Et tu vois, nous, c'est ce qu'on essaye de faire et on adore faire chez Chiloé, c'est vraiment de rendre le voyage l'élément essentiel voilà, qui fait toute la beauté de ce que tu vas vivre pendant une semaine. Un exemple très concret, c'est qu'en fait, aujourd'hui, partir à vélo en voyage, c'est effectivement très, très dans l'air du temps, mais moi, j'ai des souvenirs comme ça, si tu veux, de week-end ou de semaines de vacances en partant de Paris ou de Bordeaux, où tu pars de chez toi. Et puis finalement, tu rentreras en train. Tu sais pas exactement où tu vas t'arrêter. Tu sais pas exactement combien de temps ça va durer. Mais en fait, tu fais le parcours que tu fais d'habitude, soit en voiture, soit en train, où tu ne t'arrêtes pas. Donc, c'est les fameux grands paysages que tu traverses à 130 sur l'autoroute et tu sais pas ce qu'il y a de part et d'autre de l'autoroute. Et là, en fait, d'un coup, tu te retrouves à les traverser à vélo. Et en fait, c'est l'exemple, je sais pas, de ceux qui habitent à Paris et qui vont en Bretagne. Ben, finalement, entre Paris et la Bretagne, ben, il y a plein d'étapes et d'endroits absolument magnifiques où on n'aurait jamais pensé à s'arrêter, quoi. Et c'est ça que je trouve incroyable dans le voyage demain, c'est de finalement s'arrêter, en fait, de tout ce qu'on avait l'habitude de faire, des endroits où on allait, de se dire, ben, en fait, je vais continuer à y aller, mais je vais y aller d'une manière différente. Et en fait, je vais volontairement m'arrêter un peu avant, m'arrêter un peu après sur le chemin, pour me sortir un peu de mes habitudes de tous les ans, je vais à tel endroit en vacances, par exemple.
J'aimerais qu'on revienne à la base. Qu'est-ce qui fait que tu as créé cette société qui s'appelle Chiloé, donc, et qui, pourquoi tu t'es intéressé aussi particulièrement au voyage local? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que tu fasses ça plus qu'un autre projet, je veux dire?
Ouais, alors, je vais dire très égoïstement, je rêvais, tu vois, de d'avoir un job qui soit assez aligné avec mes passions, mes centres d'intérêt, mais surtout, moi, j'ai toujours adoré, j'ai habité à Nantes, tu vois, un peu plus jeune, j'étais un malade, un mordu de planche à voile, et je rêvais de passer tous mes week-ends à faire de la planche à voile, d'une manière ou d'une autre, voilà. Et ça, j'étais moins intéressé par aller, si tu veux, en boîte de nuit, ou voilà. Et puis après, en grandissant, en travaillant à Paris, à Barcelone, j'ai découvert aussi le fait de pouvoir, dans ton quotidien, vivre des aventures, que ce soit d'aller en forêt de Fontainebleau un jeudi soir, dormir à la Belle Étoile et de revenir bosser le vendredi, que ce soit en étant à Barcelone, d'aller faire du ski de rando tôt le matin dans les Pyrénées ou d'aller surfer l'hiver. Et donc, en fait, c'est moi, ma vision, si tu veux, de la micro-aventure, c'est moins le voyage au sens vacances. Et c'est pour ça que je parle... Jacques, la micro-aventure, c'est moins une quelque chose pour les vacances, c'est quelque chose plutôt pour les week-ends. Et c'est comment, en fait, tu fais de chaque week-end des vacances. C'est plutôt ça, en fait. C'est-à-dire comment tu pars plus souvent dans la nature, à l'aventure, ou même explorer de nouvelles villes, de nouveaux territoires. Et c'est moi, en fait, toute cette... c'est cette réflexion qui m'a en fait, amené vers ça. Et je voyais pas mal de gens autour de moi me dire, mais Ferdi, en fait, c'est génial, t'es allé faire du ski de rando, mais alors attends, t'habites dans telle ville, t'as ce métier, mais moi je sais pas où aller, j'ai pas forcément le matériel, j'ai pas le temps d'aller faire ça, je n'y aurais même pas pensé. Et en fait, c'est tout ça qui nous a amené à se dire, on va parler de micro-aventure, on va essayer de mettre un nom dessus, de créer un concept, ce qu'on appelle la micro-aventure. On a absolument rien inventé. C'est le fait d'aller vivre des courtes aventures, pas très loin de chez soi, de 2-3 jours. Et puis, en fait, on va rendre ça cool, on va rendre ça sympa, on va faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et c'est ça que j'aime beaucoup, et je finis là-dessus, c'est que ma génération aussi, tu vois, a été hyper drivée par les récits de Mike Horn, qui vit des histoires complètement incroyables, de Kylian Jornet, qui monte 2 fois l'Everest.
C'est clair.
Et en fait,
qui court sur le Mont Blanc.
pour le commun des mortels, je dirais comme toi et moi, et peut-être ceux qui nous écoutent, bah en fait, la probabilité qu'on aille faire ça, elle est assez faible. Et donc...
Il faut les conditions physiques déjà.
il faut les conditions physiques, il faut le temps, il faut la préparation, il faut l'équipe, en bref, il faut beaucoup de choses. Et dans nos vies, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de se dire, en fait, comment on arrive à amener de l'aventure et tu vois, des petits moments de temps précieux comme ça dans nos vies de tous les jours et qu'on a des vies tous un peu à 100 l'heure. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et donc, on s'est dit, en fait, on va parler de nos micro-aventures et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait toute une communauté de gens comme nous qui vivaient ça et qui avaient envie de le partager. C'est comme ça que très vite, on a commencé à partager, si tu veux, tu vois, les micro-aventures des autres. Et en fait, quand tu te projettes vachement dans l'histoire de quelqu'un ou dans le récit de quelqu'un, quand tu sais qu'il te ressemble. Et donc, le récit de Kylian Jornet, il est phénoménal et encore une fois, il inspire et il met en mouvement, il challenge et tout. Mais quand t'as des gens qui te ressemblent un peu, c'est-à-dire qu'on, je sais pas, des parents qui ont des enfants mais qui se donnent les moyens de faire pas mal de choses avec leurs enfants dans la nature ou de voyager ou de bouger souvent, en fait, ça t'inspire et tu te dis, mais en fait, c'est possible, c'est accessible. Et moi, ce que j'aime, c'est l'inspiration qui est accessible. Autrement dit, l'inspiration, c'est intéressant si ça génère le passage à l'action. Tu vois, ça, c'est, je crois vachement à ça. C'est vraiment un truc. Je vais pas claquer la porte tout de suite, c'est un peu tôt, mais le tous les discours, enfin tout ce qui est très inspirationnel, qui fait rêver, mais qui en fait génère beaucoup de frustration. Moi, m'emmerde un peu. J'adore vraiment ce qui t'inspire, mais qui t'oblige à passer à l'action, quoi. L'espèce de personne que tu rencontres, le podcast que t'écoutes ou le bouquin que tu refermes et tu te dis, putain, je vais faire ça. Ça y est, j'y vais là. Mais c'est pas, je rêve de le faire. C'est bon. Je me sens capable, je vais le faire.
En fait, il y a deux choses et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ces micro-aventures, moi, je rêve d'en faire et j'en fais pas. Donc, ça va être vachement intéressant de parler de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui se disent « Ah ouais, c'est génial !» Mais je ne sais pas par quel bout le prendre, exactement comme tes potes. Et puis, dans l'accessibilité, il y a aussi une question de prix. C'est-à-dire que, alors, bien sûr qu'aujourd'hui, on peut voler en Europe, voire un peu plus loin, pour très peu cher. Et ça, c'est un vrai problème aussi, le discount sur les vols. Parce que moi, quand j'étais jeune, pour le coup, ça remonte à quelques années, mais voler, enfin prendre l'avion, c'était vraiment quelque chose de luxueux. Et c'est sans doute une partie du problème. Mais il y a l'accessibilité. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, quand tu vis à Paris, aller à Fontainebleau, sauf à bosser le week-end, c'est possible. Enfin, ou bosser la nuit, ce que tu expliquais, bah, tu peux le faire. Enfin, tu vois, financièrement, c'est possible de le faire. Tu vas prendre le train pour aller à Fontainebleau. Je connais pas les prix, mais j'imagine que ça ne doit pas excéder 30 euros. Donc, c'est faisable pour beaucoup de gens.
Quel est le prix d'une baguette de pain grecque en France?
Écoute, je dirais 1 euro voilà, pour une baguette de pain. 90 centimes, ça dépend où tu vas, mais ça peut être 80 centimes, cela dit. Mais non, je connais à peu près les prix des pains quand même.
Ah, je te challenge jamais, effectivement, parce que le train pour Fontainebleau, tu vois, c'est de 10-15 euros.
Ouais, c'est ça, c'est faible.
Donc en fait, c'est voilà. Ouais.
Ouais, je voulais pas dire une connerie, donc c'est pour ça que j'ai pris un prix assez haut, parce que j'étais majeur de moi quand même sur Fontainebleau. Mais effectivement, c'est très peu cher. Et j'avoue que j'ai jamais pris le train pour aller à Fontainebleau, donc je voulais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est accessible financièrement. Et c'est accessible aussi en termes de temps. Mais comment tu fais, alors, admettons, comment tu fais pour convaincre quelqu'un de commencer? Comment on commence quelque part? Comment je me lance? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, ah ouais, c'est super, mais je sais pas par quel bout le prendre. Vous avez créé un guide en fonction des villes.
Ouais, alors en fait, je vais répondre à ta question, mais je vais essayer de t'expliquer nous notre démarche. Parce qu'en fait, j'ai analysé la manière dont j'essayais de convaincre mes amis, ou en tout cas de rendre facile le truc. Et donc après, je me suis dit, mais comment en fait je peux avoir un peu plus d'impact, un peu plus d'échelle, tu vois, dans ce qu'on fait. Et je crois beaucoup à inspiration, introspection et passage à l'action. Et volontairement, je reviens là-dessus. Parce qu'en fait, même quand on... donc, on a une communauté qui a vachement grandi et finalement, quand on les interroge et qu'on leur dit « Mais c'est quoi les freins qui vous empêchent ? C'est quoi, Greg, ton frein qui t'empêche de passer du temps dans la nature ou d'aller vivre une micro-aventure ?» Eh ben, les réponses, c'est d'abord les idées. Je n'ai pas l'idée. Ce week-end, je n'ai pas pensé, mais je pourrais aller... Alors, c'est un mauvais exemple, mais je pourrais aller au Brame du Cerf, mais c'est pas du tout la période. Je pourrais aller, tu vois, descendre telle rivière en canoë. Je pourrais aller rejoindre, admettons, j'habite Paris, je pourrais aller au Mont-Saint-Michel. C'est un week-end de 3-4 jours. Je pourrais aller au Mont-Saint-Michel à vélo. Bref, tu vois, je n'ai pas l'idée. Ça ne m'est même pas venu. Alors, tout le monde a l'idée d'aller passer un week-end à Barcelone avec des copains ou à Lisbonne. Tout le monde a l'idée d'aller réserver un Airbnb, etc., dans une ville et tout. Mais après, je vais parler de la simplicité de l'acte, tu vois, de le faire. Mais d'abord, je n'ai pas l'idée. Donc, nous, notre job, c'est d'abord de donner des idées. Et donner des idées, c'est comme, tu sais, quand tu rentres le soir à la maison et tu dis, qu'est-ce que je vais bouffer? Attends, je ne sais pas ce que je vais bouffer. Bah, en fait, tu cherches des idées. Et c'est d'abord notre job. C'est de donner des idées de choses à faire ce week-end, pendant les prochaines vacances, pendant le prochain pont, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Et donc, des idées, c'est quoi? C'est des idées et des infos pratiques, parce que si tu donnes que des idées, bah les gens disent « Ok, maintenant que tu m'as donné l'idée, comment je fais pour y aller ?» Et donc ça a été le deuxième, si tu veux, frein que les gens nous ont remonté en disant bah, « En fait, ok, super, admettons qu'on aille acheter des bouquins de rando, des fiches pratiques de voyage à vélo, je sais pas quoi. Des bouquins, tu vois, qui donnent envie. Si j'ai pas le côté pratique, je vais pas le faire. » Et aujourd'hui, alors tu vois fleurir plein de guides, plein de bouquins là-dessus, mais en fait, il y a 3-4 ans, il y avait rien, tu vois, où il y avait quelques vieux guides un peu vieillots sur des randos à faire en France, mais c'était pas hyper sexy, pas hyper au goût du jour.
C'était pas la même classe d'âge. Je pense que ça parle pas la même classe d'âge.
Et aujourd'hui, tu vas dans une bonne librairie, tu vas voir là, surtout en ce moment, je veux dire, et nous on vient de sortir un bouquin il y a 2 semaines là, qui s'appelle La Bible de la micro-aventure. Je peux te dire qu'on voit le sujet de la micro-aventure et de l'aventure en France partout. Il y a 3 ans. Je veux dire, les gens nous prenaient pour des Mickey quand on disait la micro-aventure. Ils disaient, ah, c'est quoi la micro-aventure? C'est cheap. C'est une aventure, mais micro, quoi. Micro. Donc, c'est-à-dire moins de sensations. OK, moins cher, mais peut-être aller quoi? Moins de sensas, tu vois, moins compliqué, moins. Tout ça, c'est un peu changé. Bref. Donc, les idées, les infos pratiques. Je dirais le troisième truc, c'est du monde avec qui partir. Et c'est là, je pense, le truc le plus important aussi. C'est qu'une fois que tu as l'idée et l'envie, Donc, admettons qu'on parle ensemble dans notre discussion et tu me dis, ben, peut-être ça te travaille, tu te dis, mais voilà, finalement, je vais quand même aller tenter un truc de micro-entrepreneur, je vais prendre mon vélo, je vais partir dans telle direction, puis je rentrerai en train. Admettons que j'ai réussi au moins à donner l'envie de faire ça ou pour tes prochaines vacances d'aller partir 3 jours en itinérance, en rando, en montagne. Le prochain truc, tu vas dire, mais en fait, quoi, j'y vais tout seul ou j'y vais avec des potes? T'as envie d'aller avec des potes? Alors là, tu te dis, mince, est-ce que mes potes sont motivés et dispo? Et alors ça, c'est le frein le plus dingue. C'est que finalement, t'as envie, t'es prêt, t'as envie d'y aller.
T'as ton plan.
Cet été, je vais aller faire le tour du Mont Blanc en rando parce que c'est absolument magnifique. Et c'est encore mieux de le faire un petit peu sur les ailes de saison, type juin, septembre, quand il y a un peu moins de monde. À ce moment-là, tu cherches du monde. Et en fait, les gens ne sont pas dispo et motivés. Soit ils ne sont pas dispo parce qu'ils ont d'autres eux, soit en fait, ils disent, bah, Greg, sympa, mais moi, ce n'est pas du tout mon délire. Parce qu'ils n'ont pas fait cette démarche, etc. Et je ne dis pas que c'est universel, mais je pense quand même que la nature est assez universelle au sens où le besoin d'aller dans la nature est universel. Et 100% des gens avec qui j'ai randonné, qui ne sont pas forcément des grands sportifs, etc., me disent tous à chaque fois, c'est ouf.
C'est vrai, bien sûr.
Et me disant, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? En fait, c'est incroyable. J'adore ce mode de vacances. Tous les ans, maintenant, désormais, je ferai au moins une semaine, de rando, d'itinérance, etc. Je vais aller traverser les Cévennes avec un âne pour donner une autre idée de choses à faire en France hyper sympa. Mais donc, c'est les gens là. Et donc, nous, tu vois, on a créé il y a un an ce côté un peu tour opérateur au sens, j'aime pas trop le terme parce que c'est pareil, c'est vieillot, etc. Mais on crée des séjours, on crée des micro-aventures en France que tu peux réserver. Et donc, tu peux partir avec des gens de la communauté. Tu peux partir avec des gens dans le même état d'esprit, avec les mêmes valeurs que toi. Et en fait, pourquoi on a créé ça? Parce qu'on recevait des messages tous les jours de gens qui nous disaient « Mais t'as super les idées de Chiloé, trop bien, etc. Mais moi, ma femme, ça l'emmerde. Mes potes, ils sont pas dispo. Quand est-ce que je pourrais partir avec des gens de la communauté de Chiloé ?» Et on a fait ça. Et donc, ça, c'est le troisième frein. Le quatrième frein, c'est plutôt l'équipement. C'est un sujet et pas un sujet. Je dirais qu'en fait, si déjà, t'as l'envie... t'as à peu près ton plan. Et puis, en plus de ça, bon, t'as réussi à soit t'inscrire à une micro-aventure avec Chiloé ou à organiser ça avec tes potes.
Et t'es mobile aussi. Enfin...
T'es...
Non, parce que ça compte quand même.
Et le
t'as
quatrième,
deux jambes qui fonctionnent bien.
Exactement, exactement, c'est vrai. Et le quatrième, c'est le matos, c'est qu'on va pas à poil dans la nature. Et donc, à ce moment-là, arrivent les questions de, je sais pas, les bonnes chaussures de rando, la bonne tente, le bon sac et tout. Et donc, c'est des vraies questions, ça, aujourd'hui, qu'on nous pose beaucoup. C'est qu'est-ce que vous conseillez, tu vois, comme vélo pour partir, quelle sacoche de vélo, quel matos et tout. Mais bref, fin de parenthèse là-dessus. Donc, je pense que d'abord les idées, l'inspiration. Et donc, nous, on essaie de rendre ça cool, ludique, marrant, fun. Et donc, ça attire des gens qui n'achètent pas des magazines à outdoor et qui sont pas nés au pied des montagnes et au bord des vagues. Donc ça, c'est notre manière de donner envie et de donner des idées. Et puis après, on a craqué ce truc-là et j'en suis très fier. C'est comment tu fais partir des gens ensemble dans le même état d'esprit. Et en fait, dans le monde dans lequel on vit, bah, tu vois, c'est tellement compliqué de rencontrer du monde. Je trouve, hein, plus on vieillit, plus nos cercles d'amis se restreignent. On a eu le Covid qui nous a profondément renfermés, enfin, bref, etc. En fait, de créer du lien. Et moi, je te le dis, bah, en fait, c'est le plus beau truc, c'est que quand je pars sur des micro-aventures de Chiloé, avec des gens que je connais pas, du coup, parce que c'est un peu le principe, bah, en fait, je me dis à chaque fois, c'est comme un week-end de potes, mais en mieux. Tu sais, le fameux week-end de potes sans les travers et les défauts de tes potes. C'est-à-dire, lui, c'est le grognon, il sera toujours un peu grognon. Lui, il est toujours à la bourre, il s'occupe de rien. Lui, il fera jamais la bouffe. Et alors, lui, un tel, il faut toujours le tirer pour l'emmener faire un truc et tout. Et lui, c'est le festif, machin. Et en fait, là, bah, les gens, ils sont là pour, sans se juger, sans se connaître, profiter. Et ça devient des potes ensuite et ça fait du réseau, ça fait des expériences chouettes. Mais voilà, moi j'aime cette idée de créer du lien et de temps en temps s'offrir une parenthèse dans nos vies, que ce soit encore une fois de partir avec des copains ou que ce soit de partir avec des gens qu'on ne connaît pas, mais avec la garantie qu'il y a un état d'esprit partagé.
Alors tu nous as donné des exemples tout à l'heure, Fontainebleau, et puis enfin, dormir à la Belle Étoile, pardon, à Fontainebleau, de parcourir les Cévennes à dos d'âne. Est-ce que parce qu'en fait ça s'adresse quand même plutôt, j'ai l'impression, aux citadins. Ce qui représente en France, je ne connais pas exactement le chiffre, mais je sais que ça sera bientôt 70% de la population. Est-ce que tu as des exemples autour de grandes villes pour donner envie justement, tu vois, pour donner le petit kickstarter entre guillemets pour se dire « Ah putain, mais là, ça serait cool de faire ça avec mon mec, avec ma copine, avec un pote, etc. »
Ouais, exemple, j'en ai plein, je vais tenter de t'en donner quelques-uns, mais pour ceux qui habiteraient par exemple à Nantes ou je dirais sur l'Ouest de la France, d'aller par exemple faire le tour de Belle-Île à pied. Si tu veux, je pense que tout le monde a envie à un moment donné ou est peut-être déjà allé passer du temps à Belle-Île, que ce soit en week-end avec des amis ou que sais-je. Mais maintenant, l'idée, c'est de se dire, on va aller faire le tour de Belle-Île à pied en 4 jours. Ça, je trouve ça assez génial. Et en vrai, moi, je trouve ce truc complètement dingue. Ça peut être d'aller, par exemple, découvrir les îles du Morbihan à la voile. Si on reste, tu vois, dans ce coin. Mais pour ceux qui habiteraient à Lyon, ça serait d'aller faire un premier bivouac dans le Jura. Ça serait d'aller découvrir l'escalade dans le Vercors. Pour ceux, tu vois, qui habitent à Paris, je prenais l'exemple, je trouve assez génial, tu vois, d'aller traverser les Cévennes avec ton âne.
Alors, c'est un peu loin, les Cévennes de Paris.
Alors, ouais, mais c'est un peu loin, en fait. C'est tout ça, c'est 3 heures et demie de train. En fait, fais le calcul, hein, mais je suis sûr que ceux qui nous écoutent ne prennent plus l'avion 3 fois par semaine. Mais en fait, parfois, on a l'impression... Tu vois, mais il y a un truc, c'est marrant. On associe le dépaysement au nombre de kilomètres qu'on va faire ou à l'éloignement. C'est-à-dire, en fait, plus je vais aller loin, plus je vais être dépaysé. Et en fait, j'essaie de... Putain, faut qu'on arrive à casser ce truc-là, quoi. C'est pas vrai. Tu peux être profondément dépaysé si tu vas à côté de chez toi. Et je ferme la parenthèse là-dessus. Et il se trouve que pour aller dans les Cévennes, en train, c'est 3h30 de souvenirs. Alors, j'espère que je dis pas de bêtises parce que je m'en souviens plus précisément. Mais c'est 3h30 pour y aller. Enfin, quelqu'un qui voudrait aller dans un autre pays d'Europe en avion mettrait finalement autant de temps ou voire plus avec les différents, tu vois, temps de latence, ouais,
faut
de trajet, de machin,
faut aller attendre.
Donc les Cévennes est un super truc, mais tu peux aller en baie de Somme quand tu habites à Paris, etc. C'est génial. Tu peux aller longer le Cotentin en vélo. C'est un truc incroyable. Que te dire d'autre, le Vexin. Moi, j'ai des souvenirs quand j'habitais Paris, ce qui est plus le cas aujourd'hui. J'habite à Annecy, mais j'adorais aller descendre la rivière de l'Epte en stand-up paddle. Mais ça, t'as l'impression d'être au Costa Rica. Je veux dire, tu vis un truc, tu te dis, mais c'est ouf. Et tu vois, c'est marrant. Et ça, j'en suis très fier. On y est absolument pour rien, mais quand je suis très fier, j'en suis très heureux. Aujourd'hui, quand t'arrives le lundi matin, la machine à café, le gars qui te raconte qu'il a, tu vois, je sais pas moi, descendu une partie du Rhône en stand-up paddle de Genève à Lyon, par exemple, ou qui a traversé les Cévennes avec un âne, avec ses enfants, tu te dis, putain, c'est quand même assez chouette, quoi. C'est assez original. À l'époque, il y a 4 ans, le mec était original, c'est celui qui revenait d'un week-end à Berlin, à Barcelone, à Lisbonne, ou qui avait fait, et qui disait d'ailleurs, j'ai fait le Népal, j'ai fait le Cambodge, j'ai fait la Bolivie, ce que je trouve atroce comme concept de faire un pays, parce qu'en fait, en vrai, tu ne fais pas un pays, tu découvres une partie du pays.
Oui, et puis surtout, tu vas dans les endroits les plus touristiques.
Tu vas en plus dans les endroits les plus touristiques. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'on peut dire, j'ai fait le Mont Blanc? Bah, d'une certaine manière, oui, tu as fait le Mont Blanc parce que bon, t'as fait un sommet et c'est le même sommet pour tout le monde, etc. Mais cette idée, si tu veux, de j'ai fait quelque chose, me donne un peu le côté, penser un peu à la checklist. Et en fait, je trouve ça triste. Et c'est parfois ce qu'on essaie de faire. Je sais que quand j'habitais à Paris et j'avais ce travers-là, c'est que je voulais remplir mes week-ends. J'avais vraiment ce truc de remplir mes week-ends et donc je voulais un peu checker les trucs. Donc, aller faire un festival, aller faire un week-end à tel endroit, aller passer une semaine, je sais pas quoi. Et tu vois, en fait, tu checkais un peu des trucs, tu essayais de remplir des cases. Et en fait, je pense que ce qui est génial, tu parlais de prendre le temps tout à l'heure en début de podcast, mais prendre le temps. Et vraiment, je vous invite à aller lire notamment le nouveau livre, et je fais un peu de pub, le nouveau livre qu'on a sorti il y a 2 semaines, qui s'appelle La Bible de la micro-aventure aux éditions Marabout, qui est dans toutes les bonnes librairies. Mais il y a aussi donc des grandes idées de voyage et d'aventure en France, mais il y a aussi plein de petits trucs. Quand je te prenais l'exemple de partir à vélo de chez toi et puis de rentrer en train, ça c'est un truc génial. Mais moi, souvent, ce que j'adore faire, c'est en fait, quand j'étais à Paris, je regardais le sens du vent. Je faisais en sorte de partir dans la direction du vent, donc avec le vent dans le dos, et je rentre dans le train. Ça veut dire qu'en fait, ça, c'est une aide à la décision. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te dis, j'habite à Paris, je peux partir en vélo n'importe où. Et alors là, c'est toute la difficulté, je trouve, quand tu habites parfois dans des grandes villes, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Et même nous, en habitant à Annecy, tu vois, il y a tellement d'endroits sympas et d'options pour aller faire des trucs que parfois, tu te dis, mais en fait, je vais où? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche?
Et du coup, tu restes devant Netflix.
Et du coup, tu restes devant Netflix. Merde, quoi, c'est vraiment ça. Et je crois vachement à ça. Un autre exemple, et je t'invite à le faire, et je vous invite tous à le faire, c'est d'aller faire le tour de sa ville à pied. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire le tour de Paris à pied. C'est le GR 2024. Ça nous a pris 8 heures. C'est un des trucs les plus durs que j'ai fait. J'ai trouvé dur parce que, bon, déjà, tu passes dans des endroits que tu ne connais pas. Et donc, tu es persuadé que tu ne connais pas. Mais en fait, ça te force à passer dans des endroits que tu ne connais pas du tout. Et donc, c'est facile, ça s'appelle le GR 2024. Il y a tout un GR qui est tracé avec des indications là, un peu partout sur les murs et certains poteaux de Paris. Mais là, c'est une énorme aventure. Ça m'a pris un dimanche. Alors je sais plus si c'était 60 ou 80 bornes, mais je peux te dire qu'à la fin, on avait les fesses qui faisaient bravo.
Ah ouais, 80 bornes à pied, c'est.
Et ça fait une bonne journée. Mais ce que je voulais juste dire, et que j'ai trouvé profondément difficile, même plus dur que d'aller faire certaines ascensions que j'ai pu faire, tu vois, dans les Alpes, c'est que à chaque moment du parcours, t'as une option de rentrer chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, j'ai fait 20 bornes, pourquoi je prendrais pas une trottinette, un métro ou un bus pour rentrer? Et c'est ça qui est dur. Tu te dis, mais en fait, pourquoi finalement je fais le tour de Paris? En fait, ça y est, j'en ai fait une demi-journée, c'est sympa, je vais prendre le train. Alors que souvent, quand tu fais par exemple le tour du Mont Blanc, en fait, tu es parti d'un endroit,
t'as pas trop d'options.
À cet endroit, tu n'as pas d'option, quoi. Et à un moment donné, il faut faire le tour. Et c'est ça que j'ai trouvé, bon, bref, génial. Mais toi, c'est, en fait, donc, c'est finalement plein de petites idées dans son quotidien, et on en donne plein dans ce bouquin, c'est des aides à la décision pour facilement faire des choses le week-end et éviter effectivement de faire toujours la même chose.
Et tu parlais de conditions physiques. Moi, par exemple, j'ai pas mal de potes et des personnes que je suis sur Instagram qui font effectivement des grands voyages en vélo. Et même si j'ai une condition physique qui est pas mauvaise, ça m'a toujours fait hyper peur de me dire, mais attends, mais je pars en vélo, mais est-ce que je suis capable? Enfin, tu vois, déjà, quand je fais du vélo pendant une heure, je suis fatigué, en fait. Donc, comment ça marche? Est-ce qu'il faut avoir une condition physique particulière? Comment tu te prépares? Parce qu'il y a aussi cette question, bêtement, tu vois, en dehors du fait qu'il faut un vélo, en l'occurrence, mais ça, ça j'ai. Mais comment tu t'organises? Est-ce qu'il faut une condition physique? Pardon.
Ouais, c'est une bonne question. Je pense que tu as dit un point tout à l'heure qui est important, c'est qu'effectivement, il faut effectivement être en bonne santé, avoir deux jambes, deux bras, etc. Et voilà, pour aller vivre une aventure et tout. Et moi, je sais que c'est des choses auxquelles on réfléchit, tu vois. C'est comment on essaie de rendre aussi un peu plus accessible les aventures qu'on propose à des personnes qui sont pas
sont en situation de handicap
exactement en situation de cap ou de maladie et donc parfois avec des problèmes de santé ou d'endurance tu vois ou de respiration un peu compliquée donc c'est vraiment un truc que l'on va chercher mais je crois pas du tout à cette histoire. En fait je crois que souvent la condition physique est une excuse on dit ah ouais mais j'ai un copain c'est incroyable il a fait un Ironman c'est vraiment un taré jamais je ferai un truc pareil ou parce que justement il a fait un Ironman, c'est pour ça qu'il peut faire ce truc-là, ou parce que hein, il fait quand il était petit, si tu veux, il faisait de la natation en compétition, donc en fait il a un cardio de dingue, donc ouais, il va nous mettre la misère si on part en vacances ensemble faire un truc en vélo. Et en fait, je crois que souvent c'est des excuses. En tout cas, je peux te dire que le concept de micro-aventure, c'est par principe, c'est de courte durée, accessible, proche de chez soi, etc. Alors par principe, je dirais que c'est pas une histoire de conditions physiques, c'est une histoire de sortir de sa zone de confort. Et je crois que souvent on confond vraiment les deux. C'est que, je veux dire, même pour faire le tour de Paris et marcher 8 heures, n'importe qui en est capable. Sincèrement, c'est pas une histoire d'entraînement. Et puis, je pense qu'on s'adresse et sans doute dans les gens qui nous écoutent sur ce podcast, tout le monde fait peut-être du footing. Enfin, tu vois, un certain.
C'est
du
pas
sport.
Le cas, je vous conseille. Hein.
Voilà. En tout cas, fait d'une manière ou d'une autre des activités physiques, que ce soit encore une fois, je sais pas, du yoga, du tennis, du foot, etc. Donc en fait, je veux dire, la rando, c'est le truc le plus accessible et c'est le truc le plus simple du monde. Je veux dire, c'est marcher, faut marcher un petit peu plus longtemps que d'habitude. Donc moi, je crois que surtout, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas savoir exactement à quelle heure je vais arriver. Ça veut dire ne pas savoir exactement ce que je vais manger. Ça veut dire ne pas savoir exactement où est-ce que je vais dormir. Tu vois, et en fait, dans toutes les micro-aventures, dans toutes les aventures, globalement, on mange, on dort et on finit toujours par arriver à destination. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le charme ensuite. C'est en fait, en faisant ça, tu laisses place à l'imprévu. Et plutôt que d'avoir, tu vois, nos rites sociaux hyper définis, on va dîner à telle heure, on fait tel truc, et puis il y a d'abord l'entrée, puis après il y a le repas, il y a le dessert, machin. Enfin, tout est, notre vie est complètement processée, puis après je vais dormir, et puis j'éteins la lumière, et puis je me réveille, puis machin, puis je prends ma douche le matin plutôt que le soir. Bon, bref, là, quand tu pars à l'aventure, eh ben, il y a la météo qui rentre en compte, et ça, je trouve ça génial. Bah, d'un coup, la météo chamboule ton voyage. Tu avais prévu d'aller à droite, tu vas aller à gauche. t'as une rencontre sur le chemin, t'as quelqu'un qui peut-être se blesse dans ton groupe. Et c'est ce qui fait, je crois, le charme du truc, c'est qu'à un moment donné, si t'acceptes que c'est pas la destination qui est importante, c'est pas le fait d'arriver en haut du Mont Blanc ou d'arriver dans la cabane du refuge le soir. Ce qui est intéressant, c'est je pars et j'arrive et ce qui se passe entre les deux, tu vois. Et, et bah peut-être que tu vas arriver plus tard, peut-être que tu vas prendre plus de temps, peut-être que ça va être plus dur, peut-être que tu vas. Et moi, c'est ça, c'est ce que je trouve génial. Donc c'est une histoire de sortir de sa zone de confort. Et je veux dire, physiquement, là, on parle pas de traverser la France à vélo en 24 heures, quoi.
Et en fait, on parlait de lenteur tout à l'heure, mais ce dont tu fais l'apologie, si je me trompe pas, c'est du slow. Et le slow, pour moi, c'est pas le fait de ralentir. On dit souvent la slow food, c'est pas de manger un Big Mac lentement, évidemment. C'est de prendre le plaisir dans chaque petite chose, dans chaque petit instant, dans de célébrer entre guillemets le processus. Par exemple, quand tu fais pousser des tomates, quand tu fais pousser des légumes, tu vois, ce qui est beau, c'est l'effort que tu y as mis de voir le légume pousser. Et là, quand tu le manges, il a une autre saveur finalement, ce légume. Alors que si tu vas l'acheter au supermarché, forcément, tu le jettes à la fin. Tu vois ce que font beaucoup de personnes aujourd'hui, en tout cas en Occident et en France. Donc il y a aussi cette apologie du slow, je me trompe pas trop, c'est-à-dire de vraiment prendre le plaisir dans chaque petite chose et savoir les reconnaître, en fait, les remonter à la conscience.
Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis. J'avais lu un truc qui disait le luxe de demain sera la lenteur dans le silence. C'est très ésotérique. Ça cochait plein de trucs. Il y avait luxe de demain, silence, lenteur. Enfin bref, silence et lenteur, je pense, sont deux choses demain qui vont nous aider, à mon avis, à mieux vivre. Sinon, on va tous un peu exploser en plein vol. Mais il y a le slow travel, quoi. Donc tu vois, il y a la slow food, il y a la slow tout ce que tu veux, et il y a le slow travel. Et en fait, mais c'est marrant parce que je suis toujours très impressionné par et je pense que tu vois, on est aussi entouré sur Instagram de gens qui vivent des trucs incroyables. Je suis sûr que tu dois avoir sur Instagram ou je sais pas quel réseau tu regardes, mais des gens qui, t'as l'impression qu'ils vivent toujours des trucs incroyables. Ils sont en voyage, je sais pas quoi, ils sont partis vivre
dans
un hôtel
de fou.
Alors ça c'est moi, en tout cas je les vois moins ceux-là, mais en tout cas qui se donnent des, t'as toujours l'impression qu'ils se donnent les moyens de faire des trucs assez incroyables, que ce soit dans d'autres pays, en France, je sais pas quoi et tout. Et parfois tu te dis, mais en fait comment ils ont le temps? Moi souvent je me dis ça, en fait, on trouve des excuses, on se dit ouais mais attends mais lui il a pas d'enfant, ah non mais c'est facile parce qu'il a un boulot qui lui permet de faire ça, ah non le mec il est je sais pas quoi, nomade et tout. Et en fait je pense que n'importe qui est capable de prendre le temps. Je t'ai pas dit un truc intéressant, je fais une boucle là-dessus. Quand on a demandé à notre communauté quels sont les freins qui vous empêchent de partir à l'aventure, le premier c'était le manque de temps. Donc je t'ai dit tout à l'heure, c'était le manque d'idées et tout. Et en fait, pourquoi je t'ai dit le manque d'idées? Parce qu'en fait, le manque de temps, on n'y peut rien. Autant tu manques d'idées, ben moi, mon job et toutes nos équipes chez Chiloé, ça va être de dénicher les meilleures idées, de vous les donner.
Ouais.
Autant le manque de temps, je peux rien faire. Enfin, je veux dire, si les gens prennent pas le temps, si les gens, donc voilà. Mais le premier truc, c'est le manque de temps. Ça va prendre trop de temps d'aller à tel endroit. Moi je bosse 5 jours sur 7, le week-end j'ai pas envie d'aller mettre la rate au courbouillon, etc. Donc j'ai pas le temps, j'ai pas le temps d'aller dormir à Fontainebleau le soir avant d'aller bosser le vendredi matin. Je te prends deux exemples, à Annecy il y a pas mal de gens, on aime bien, c'est aller faire par exemple du ski de rando, tu vois, l'hiver, le matin très tôt avant d'aller bosser. Le nombre de fois où j'ai entendu, je le disais au début, non mais j'ai pas le temps, je sais pas, moi je, tu vois, je bosse, mais en fait on a tous le temps. Et on devrait tous se dire, comment on fait chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année pour s'offrir un temps particulier. Et donc, chaque jour, c'est un temps court, mais c'est cette espèce de temps où tu vas prendre un temps pour toi, aller, je sais pas, moi, t'asseoir dans un parc, aller faire une pause déj dans un endroit où tu vas jamais, aller voir quelqu'un que t'as pas eu depuis longtemps, je sais pas quoi. Bref, s'offrir un petit truc. Chaque semaine, ça peut être du coup une journée dans le week-end ou une demi-journée. Chaque mois, et du coup chaque année, bah ça va être un moment un peu plus long. Ça va être les fameux, tu sais, 4-5 jours que tu prends pour toi, pour aller. Certains vont faire une retraite de yoga, d'autres vont marcher, d'autres vont aller je sais pas quoi, visiter une ville, aller faire de la musique, s'enfermer pendant une semaine pour faire de la musique. Mais tu vois, donc là on a carrément dépassé l'histoire du slow travel et tout. Mais moi je suis content qu'on en parle là parce que je vais me le réappliquer dès demain. c'est vraiment ces moments pour soi qu'on prend. Et j'ai fait une conférence à Change Now il y a quelques temps, et il y avait juste après moi, sur la même scène, j'étais très fier, il y avait Sébastien Bazin, qui est le patron d'Accord. Et j'en parle parce que je me suis dit, putain, ça va être un discours un peu greenwashing, etc., sur Accord, sur ce qu'ils font, etc. Et, tout. Et puis finalement, il y a eu une discussion hyper intéressante qui a rebouclé sur ce qu'on avait aussi introduit avant, c'est sur le temps. Et il disait, mais moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma carrière, c'est qu'à chaque fois que je vais visiter un hôtel, une ville ou quelque part, et il voyage beaucoup, c'est de prendre une heure pour moi dans la journée pour découvrir un truc. Et il me dit, en fait, c'est une espèce de règle de vie. En fait, c'est hyper sain, je dirais même d'hygiène. C'est comment, en fait, il pourrait dire, mais j'ai pas le temps, en fait, j'ai plein de rendez-vous, plein de choses à faire, etc. Il dit, hélas, je le fais pas forcément tout le temps, mais je trouvais ça hyper intéressant. Il dit, ben, je vais prendre une heure pour, à un moment donné, je dis, stand-by, je vais aller marcher dans telle direction, je vais aller être à l'hôtel, mais aller à tel endroit, etc., aller voir une expo, tu vois, aller faire un truc. Et je trouve ça génial si on arrive tous à se dire que dans nos vies, aussi remplies qu'elles soient, on arrive à se donner un peu de temps.
Et je voulais faire un clin d'œil, je suis en train de chercher sur Instagram en même temps, parce que j'ai vu une podcasteuse qui habite à Annecy, et j'arrive plus à me... Je sais pas pour... Basilic, voilà, c'est le podcast, c'est Basilic. Et Jeanne, qui a décidé d'aller se baigner une fois par jour dans le lac d'Annecy. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. Et donc, je sais pas si tu la connais, Jeanne, mais...
Je la connais pas, mais j'ai entendu parler de ce podcast qui est très bien. Tu me fais bien de le rappeler.
Exactement.
Bah, Jeanne, en fait, je te donne rendez-vous, si tu nous écoutes, Jeanne, pour aller me baigner avec toi demain, la semaine prochaine, quand tu écouteras ce message. Annecy, je trouve c'est le super exemple. J'ai découvert moi aussi en allant bosser, on a des bureaux pas très loin du lac, et donc sur le chemin entre chez moi et le bureau, j'ai la chance de longer le lac, et en fait d'aller me baigner 10 minutes le matin, mais ça change totalement la journée. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui notamment le font l'hiver, parce que ça ressemble plus à de la cryothérapie qu'autre chose. Et en fait, tu vois le smile sur les visages des gens qui sortent du lac quand il est à 7-8 degrés. C'est incroyable. Et tu vois, attends, et merci d'avoir fait cette parenthèse, parce que, et merci à Jeanne. En fait, pour moi, c'est ça la micro-aventure. Tu m'as posé une question au début plutôt sur le voyage, et t'as introduit un peu notre discussion autour des vacances. Qu'est-ce qu'on va faire de nos prochaines vacances? Et en fait, je te remercie parce que moi, en fait, ce qui, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est plutôt comment on arrive à remettre des choses extraordinaires dans la vie de tous les jours. Et moi, mon modèle de vie, qui est celui notamment d'Yvon Chouinard de Patagonia, quand il disait « Let my people go surfing », c'est-à-dire dans mes équipes, je leur dis « Mais s'il y a des vagues, allez surfer, vous bosserez plus tard ». Et je crois vachement à ça. Et je pense que toi aussi, parfois quand il fait beau, bah, t'as envie d'aller en profiter, d'aller marcher, courir, aller faire un déjeuner avec des copains. Et tu vois, je crois vachement à ça. Et donc, c'est comment on intègre dans nos quotidiens, dont on a l'impression qu'il n'y a plus de place, déjà on n'a plus le temps, ces petits moments d'aventure. Et je parle d'un autre bouquin qu'on a fait à l'époque, et ça va plaire à ceux qui habitent à Paris, mais qui était le guide Chiloé Paris, dans lequel on avait mis 300 idées d'aventure à vivre à Paris.
Et c'est hyper important que tu le dises ça, parce que, pardon, je te coupe, mais parce que justement, quand on parle d'Annecy et qu'on parle du lac d'Annecy, bah, ceux qui habitent à Paris se disent, ouais, ils sont sympas, mais ils habitent à Annecy en l'occurrence. Moi, j'ai la Seine, je vais pas aller me baigner dans la Seine, donc le seul endroit où je peux aller me baigner, c'est la piscine, mais en fait, c'est quand même beaucoup moins une aventure que le lac d'Annecy. Et finalement, c'est marrant parce que tu reboucles exactement avec Paris, et en l'occurrence, dans une ville où t'as pas le lac d'Annecy en l'occurrence.
Je peux te dire qu'à l'époque, quand on a dit on va sortir un guide sur l'aventure à Paris, tout le monde nous a dit, vous êtes des marioles, les mecs, ça marchera jamais. Enfin, en fait, y a rien, tu vois. Ah oui, mais il habite à Annecy, c'est très cool. Ah, il habite à Barcelone, il y a la mer. Ah, il habite. Enfin, tu vois, on a toujours l'impression que c'est plus cool ailleurs. Et en fait, on a fait ce bouquin. Et en vrai, sincèrement, on savait pas exactement ce qu'on allait mettre dedans, hein, quand on a dit qu'on allait faire ce bouquin, parce qu'on s'est dit, en fait, putain, on est peut-être taré. Ça se trouve,
aller chasser des pigeons.
Ouais, ça se trouve, aller chasser des pigeons. Il y a pas grand-chose à faire, ou aller pêcher un silure dans la Seine. Mais, eh ben, en fait, on l'a fait. Et on a rencontré des gens incroyables qui, voilà, donc. Un tel qui avait fait le tour de Paris en marchant, d'autres qui allaient au Brame du Cerf après le boulot en octobre, etc. Certains qui allaient ramasser des champignons, d'autres qui allaient faire du street fishing sur le canal Saint-Martin, d'autres qui allaient, cet exemple du vélo, tu vois, de partir dans le sens du vent, c'était quelqu'un qu'on a rencontré qui nous racontait. Donc à chaque fois, on a raconté ces aventures-là, et c'était que des trucs à Paris. Et à Paris, je peux te citer alors non pas par cœur, mais en tout cas des itinéraires à faire à vélo qui sont incroyables. Je peux te citer des endroits où faire du ski à Paris quand il neige. Tu vois, on avait fait toute une page là-dessus, c'était énorme. Alors, on pense tous à Montmartre, mais il y avait d'autres endroits qui étaient incroyables. Et je peux te dire qu'on a eu quelques occasions d'aller sortir les snows et les skis à l'époque où j'habitais à Paris. Mais il y a plein de trucs à faire. Tu parlais de te baigner, par exemple. Tu vois, on a écrit un article ce matin dans la newsletter Tiloé qui était les spots où aller te baigner en pleine nature à Paris. Alors, on dit à Paris, c'est à côté de Paris. C'est souvent à quelques kilomètres de Paris. Mais en vrai, il y a des endroits, mais je te parlais de l'Epte tout à l'heure, qui est une rivière magnifique. Il y a des endroits où te baigner qui sont dingues. Et tu te dis, mais oui, Annecy, c'est facile, il va se baigner dans le lac. Mais il y a des trucs absolument incroyables aussi quand on habite à Paris. Certains diront, et peut-être que c'est vrai, parfois c'est plus difficile, c'est moins accessible, c'est un peu plus chiant d'y aller, peut-être que les transports en commun sont moins sexy, peut-être que je sais pas quoi, parfois il y a trop de monde, j'en sais rien. Je crois pas beaucoup à ça, moi je crois surtout que en fait, toi aussi, je crois qu'il y a beaucoup voyagé avant et qu'il en est peut-être un peu revenu de ça. Mais en fait, ça nous a ouvert les yeux. On a développé, je pense, et puis quand on a parfois été expat ou habité à l'étranger, on a développé une espèce de curiosité. Parce qu'on a l'impression de toujours découvrir de nouvelles choses. Tu découvres une nouvelle langue, de nouveaux pays, des nouveaux endroits, etc. Comme les gens qui ont beaucoup déménagé, tu sais, qui ont habité dans pas mal d'endroits différents, ils ont cette curiosité qui fait quand ils arrivent quelque part, ben en fait ils sont hyper positifs, enfin ils voient vachement le truc comme une opportunité plutôt comme un problème de putain en fait j'y connais rien, je sais pas où aller machin, c'est peut-être pas le bon truc et tout. Et en fait je crois que moi c'est finalement la synthèse Chiloé, c'est un peu ça aussi, c'est d'avoir pas mal voyagé avant et de se dire en fait si je change mon regard ou si j'ai le même regard en allant dans le Vexin je sais pas ou dans l'Oise ou en Seine-et-Marne quand j'habite à Paris pour prendre l'exemple de Paris que si j'arrivais au Costa Rica, tu vois, ou en Asie, ben en fait à ce moment-là, je vais trouver tout cool. Et sincèrement, faites l'exercice en allant travailler demain au bureau sur le même chemin sur lequel vous allez, etc. Regardez autour de vous, demandez-vous ce que vous n'avez pas vu, essayez de regarder, de trouver un truc que vous n'avez pas vu. Arrêtez-vous à une station de métro juste avant. Allez à vélo, etc. Et en fait, en faisant ça, vous remettez de l'imprévu, vous cassez complètement la routine. Et c'est mortel, comme quand je vais me baigner le matin avant d'aller bosser. Je casse ma routine qui consiste à déposer mes enfants à l'école, à prendre mon vélo, arriver au bureau, dire « Salut les équipes, vous voulez un café ?» Je me suis baigné ce matin, et voilà.
Et en fait, ce que tu dis, c'est si on est dans une société hyper performative, hyper optimisée, c'est-à-dire qu'on essaie d'optimiser tout, le trajet, le machin, qu'est-ce qui va me prendre le moins de temps, est-ce que c'est la trottinette, le vélo, le métro, le taxi, je ne sais pas quoi, le scooter. Et là, ce que tu dis, c'est arrêter d'optimiser. En fait, cette optimisation, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je crois. Donc, je te dis surtout ce que moi, je crois. Arrêter d'optimiser, ça rend personne heureux. L'optimisation, c'est que le meilleur chemin pour le burn-out. Donc, c'est l'optimisation, parfois, c'est nécessaire, bien sûr, mais c'est pas forcément la bonne recette. Il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire... On peut pas optimiser sa vie en fait. C'est l'équilibre qu'on va chercher en optimisant, c'est une illusion d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre à cet endroit-là.
En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça peut générer beaucoup de frustration, de burn-out ou d'insatisfaction chronique. Mais d'une certaine manière, je dirais que pour avoir le temps de faire les choses, il faut... Alors, ce n'est pas le bon terme, optimiser. Il faut s'organiser. Ça, je crois beaucoup à ça. Je crois que la clé, tu vois, de réussite des gens qui font beaucoup de choses, qui sont accomplis, c'est souvent une sorte d'organisation. De se réserver des moments et de dire je m'y colle et je ne dépasse pas, tu vois, enfin c'est pas une espèce de freestyle ambulant sur quoi. Donc il y a une vraie organisation et ça je crois beaucoup à ça. C'est le paradoxe du truc, c'est que pour justement s'offrir des moments désorganisés ou des moments de déconnexion, il faut profondément être organisé, tu vois, en fait. Et en fait il faut se mettre des moments dans l'agenda, il faut se mettre des moments des rituels, etc. Et après, tu sais pas exactement ce que tu vas faire dans ces créneaux-là, mais au moins, tu les as bloqués. Parce que si tu te dis, il y a une autre manière de vivre qui consiste à dire, moi, je suis dans l'instant présent et je suis capable, du jour au lendemain, de partir, j'ai cette liberté, je sais pas quoi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas je suis indépendant, j'ai pas d'engagement d'un endroit, d'un bureau, d'un truc, etc. C'est génial, mais en fait, ça veut pas dire que tu vas forcément en profiter, quoi. Je connais beaucoup d'indépendants, de freelance, etc., qui finalement profitent pas du rayon de soleil entre 14 et 16 heures pour aller faire un truc. Et puis, en fait, le jour où ils en ont envie et qu'ils ont la possibilité de le faire, ils disent « Ah bah non, bah pas de bol, tant de merde. »
Ouais, exactement. Je vois très bien ce que tu veux dire. Du coup, je reviens à ma question initiale. Comme on est à la veille de l'été, parce qu'on a beaucoup parlé de micro-aventure et moi, je trouve ça génial parce que je pense que c'est ce qui pimente ta vie. Et puis, effectivement, ça peut te permettre, alors que ce soit dans la communauté de Chiloé ou ailleurs, ça va te permettre de faire des rencontres. Et effectivement, la solitude, c'est quelque chose dont on souffre à peu près toutes et tous. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a des grandes aventures aussi en France? Est-ce que, parce que j'ai l'impression qu'en particulier avec le Covid, c'est revenu à la mode, de partir à côté en France, de profiter du voyage. C'est quoi les grandes aventures que tu proposerais comme ça pour cet été, pour les gens qui nous écoutent, s'ils n'ont pas encore prévu leurs vacances, même si j'ai bien compris qu'il fallait être organisé et que.
Alors non, mais la bonne nouvelle, c'est que. Et je pense que ça, c'est depuis le Covid, on est peut-être un peu moins organisé au sens, ouais. On a moins prévu en avance. Quand je dis organisé, c'est d'avoir réservé au moins des dates, un slot, tu vois, de temps dans son agenda et tout. Mais après, ne pas exactement savoir ce qu'on va faire à un mois du truc. Moi, ça m'arrive très souvent. Je sais que je ferai un truc super. Je sais que j'ai booké le truc. Voilà. Bref, on parlait du tour du Mont Blanc, tu vois, en bivouac. C'est 7 jours. C'est un niveau. Il faut aimer marcher sur plusieurs jours, donc mais c'est un truc absolument incroyable d'aller dans la Vanoise en montagne. Là, je te parle de choses à faire en montagne, mais ça peut être aussi d'aller marcher et de faire de rallier Collioure à Cadaqués. Pour ceux qui ont envie un peu plus de soleil et de Méditerranée, ça peut être d'aller dans les gorges du Verdon, que ce soit en rando ou en canoë. J'ai presque envie de dire, si on s'éloigne un peu de la France, tu vois, mais il y a deux endroits que j'aime beaucoup. C'est le désert des Bardenas au nord de l'Espagne, qui est hyper accessible en train quand tu viens de la France, et les Dolomites en Italie. Tu vois, là, typiquement, tu coches pas mal de cases, hein, parce que t'as une langue différente, un autre pays, je sais pas, des spécificités locales très différentes, et en même temps, ça reste un voyage très nature et tu vois, accessible facilement, facilement en train. Donc moi, j'aime bien en fait cette idée toujours de se dire est-ce qu'on a envie de montagne, de mer ou de campagne. Ça peut être, tu vois, une première porte d'entrée. Et ensuite, en fonction de ça, de se dire voilà, une fois que j'ai choisi d'aller en montagne, par contre, je vais éviter un peu de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire je vais peut-être éviter d'aller me mettre dans une station de ski l'été. Montagne ou une station balnéaire, exactement pour l'exemple de la mer. Puis à la campagne, je vais peut-être aller un peu plus loin ou dans des endroits un peu différents où j'aurais jamais pensé et tout. Mais je pense que c'est sympa d'alterner et tout. Voilà, bon, après il y a des gens qui sont plus montagne, d'autres plus mer et tout. En fait, j'ai aussi réalisé que quand t'habites à la montagne, qui est notre cas à Annecy, alors même si on est qu'à 400 mètres d'altitude et qu'on peut pas considérer qu'on habite à la montagne, mais on est au pied des montagnes. En fait, la mer me manque vachement. Et puis je discutais encore ce matin avec un copain qui me dit, j'habite à Nantes. La mer, je l'ai tous les week-ends, etc. Mais alors, putain, la montagne, ça me manque vachement.
Ouais, bien sûr.
Et je pense que tu vois, globalement, c'est dramatique, mais il nous manque toujours ce qu'on n'a pas. Bref, on a un peu dérivé.
Non, mais ça me va bien. Ça me va bien. En fait, c'est hyper intéressant parce que je me dis que c'est précisément ça qui peut nous aider à pimenter nos vies, qui peut nous aider à. Tu vois, sans doute à aller mieux, en fait, tout simplement, à être dans une forme de bien-être, parce que d'un coup, on reprend possession aussi de son temps. J'ai l'impression, même si tu es micro-aventure, même tu vois ce que disait Jeanne, en fait, sur son poste, elle expliquait qu'elle voulait prendre du temps pour elle et que, oui, elle allait se baigner 10 minutes dans le lac d'Annecy, ça paraît rien comme ça, parce que c'est 10 minutes, en vrai, on a tous 10 minutes dans la journée, c'est impossible de ne pas les avoir. Et en même temps, elle prend du temps pour elle. Voilà, et je pense que reprendre un peu possession de son temps, ça permet aussi de ralentir la machine. Et ça, quelque part, là-dedans, je suis assez convaincu qu'il y a du bien-être. En dehors même du fait de rencontrer des gens, etc., juste de reprendre contrôle un petit peu.
Ça me fait penser à une réflexion que j'ai là-dessus, que j'aime beaucoup, c'est, et puis tu vois, on le dit beaucoup en ce moment, on va vers des crises. Et sans doute des crises cycliques, enfin tu vois, voilà, alors le Covid, multiples crises. Et le réchauffement climatique en est une. En tout cas, les conséquences du réchauffement climatique et de ce qu'on va voir dans les prochaines années vont hélas être des crises. Et puis quand on voit qu'un petit virus, tu vois, a pu faire une pandémie à l'histoire, enfin voilà, devenir une pandémie sur la planète. Voilà. Et en fait, ma réflexion, c'est pour réussir demain, en tout cas à être heureux, je pense qu'il faut accepter l'imprévu. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Au sens où, par principe, des crises, on va en vivre. L'exemple, tu vois, d'après la guerre, le plein emploi, on avance tous, tout se passe bien, c'est relativement la paix. Alors tu me diras, c'est un peu la guerre froide, etc., après la Seconde Guerre et tout, donc il y avait un peu de pression, peu de stress et tout, mais globalement, ça dépend des pays et tout, mais en tout cas, pour parler de la France, c'était quand même assez prospère, c'était bien, bon, voilà. Voilà, en fait, sincèrement, que tu sois entrepreneur, que tu aies un job, des familles, tu sais pas en vrai de quoi va être fait demain. Et donc, en fait, c'est pour ça que je pense que l'aventure nous prépare vachement à ça. C'est-à-dire, par principe, l'esprit d'aventure, c'est l'esprit d'accueillir l'imprévu. Souvent, les gens ont dit ça n'est pas une aventure tant que quelque chose ne s'est pas mal passé. Tu vois, en fait, ça devient une aventure quand il y a une couille dans le potage.
Une couille, hein.
Et en fait, du coup, quand tu as cet esprit d'aventure, cet esprit d'émerveillement chaque jour, d'être capable de profiter de ces petits instants et tout, eh ben, je pense que ça va nous préparer à accepter que demain, on ait des crises qu'on n'ait pas forcément anticipées. Donc, c'est comment on gère l'imprévu dans des moments et des périodes très incertaines vers lesquelles on va aller. Et puis, voilà. Et puis, il y a un autre truc que moi, j'aime beaucoup. Et tu parles de bien-être et de bonheur. Et bah, en fait, Jeanne, quand elle va se baigner, quand elle va se baigner le matin, en fait, elle a déjà gagné sa journée. Et c'est ça que je trouve assez génial. C'est en fait, si chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tu vois, on pouvait en se couchant le soir, en se disant j'ai passé une bonne journée, j'ai passé une bonne semaine, j'ai passé un bon mois. Ok, c'est pas parfait, je suis peut-être moins en forme, il y a peut-être des choses compliquées, des choses tristes à gérer, etc. Tout se passe pas comme j'aime, etc. Mais au moins là-dessus, j'ai eu ça, j'ai eu ce petit truc. Et tout ça, en fait, c'est de la routine. Tu sais, c'est comme les grands sportifs qui s'entraînent tout le temps. C'est comme celui qui arrête de fumer pendant 21 jours, ça devient une habitude, il arrête complètement ensuite. Je me dis qu'en fait, et je l'ai vu, je veux dire à titre personnel, que en vivant ces petites routines quotidiennes et à la semaine, eh ben, tu finis par faire des choses assez incroyables. Et celui qui vit une micro-aventure, demain en fera une grande. En fait, la probabilité d'aller me faire deux fois l'Everest dans un temps record comme Kylian Jornet en partant de zéro, du niveau, je sais pas, physique actuel, elle est zéro. Mais en créant des petites aventures, au fur et à mesure, eh bien, je vais aller vers de plus grandes aventures. Et en fait, je pense que ça, c'est un bon point pour éviter de la frustration qui consiste parfois, et on a tous tendance à faire ça, parfois à se lancer dans des trucs un peu complexes. Et j'ai envie de dire, mais en fait, parfois, acceptons de faire des trucs plus simples. Tu parlais d'un voyage à vélo. Bah, en fait, pour savoir si t'es fait pour faire des voyages à vélo et avant peut-être de dépenser un paquet de pognon avant de t'équiper, peut-être avant de te lancer dans un truc d'une semaine, voilà. Bah, en fait, va déjà par une demi-journée ou deux jours à vélo, en louant un vélo, en empruntant un truc à un copain. Puis ça va te donner envie de faire un peu plus. Et puis tu vas faire 50 bornes le premier jour, puis 100, puis 150. Voilà, tu vois, moi, avant, je faisais 50 bornes par jour à vélo. Aujourd'hui, j'en fais 150. J'ai un Paul qui nous a rejoint dans l'équipe chez Chiloé, qui est capable d'en faire 300. Et je me dis, mais c'est un surhomme. Et en fait, il y a 6 mois, il faisait pas beaucoup de vélo. Donc en fait, je trouve que tout ça, c'est une histoire de routine et de muscle, le muscle à entretenir.
Parfait. Merci beaucoup, Ferdinand. C'est passionnant parce qu'en fait, je trouve que ça remet de... En fait, ça prouve aussi vraiment que c'est à notre portée, c'est à la portée de tout le monde. Et physiquement, enfin, en tout cas, tous les gens qui sont aptes, physiquement, c'est à la portée de tous les portefeuilles. Tu vois, de faire le tour de Paris, par exemple, à pied. Et en même temps, ça peut complètement changer ta manière de vivre au quotidien. Donc, merci pour ça. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Moi, je pense vachement envie de claquer la porte à justement cette idée un peu préconçue que il faut aller très loin pour se dépayser et que j'ai du coup plutôt envie d'ouvrir la porte à toutes ces, on en a parlé là, à tous ces petits moments du quotidien qui font que tu vis quelque chose, tu te dépayses, tu sors de ta zone de confort. Donc c'est ça. C'est j'ai à la fois fermé, claqué une porte et ouvert une autre. Bam.
Nickel. Merci beaucoup, Ferdinand.
Salut Greg, merci.
Merci d'avoir écouté Vlan.
Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.